Europe 1.
Bonjour, c'est Fabrice Dalméda. Dans cet épisode, nous allons parcourir les stades d'Angleterre, de France, mais aussi des États-Unis pour découvrir une pratique longtemps controversée, le football féminin.
Au cœur de l'histoire.
Ça serait un leurre de dire que c'est facile tous les jours, parce que non, quand vous avez ce poids de l'histoire de tant d'années, d'une discipline qui est réservée aux garçons, bien évidemment que les mentalités, on le sait, et ça c'est une question d'ouverture d'esprit. Je pense que ça prend du temps, donc c'est un combat de tous les jours. On sait que 2019, avec 1 milliard de téléspectateurs qui vont voir cet événement mondial avec une telle visibilité, un tel rayonnement et surtout une qualité de jeu tellement exceptionnelle sur le terrain que ça va vraiment faire bouger les lignes, ça va donner l'exemple en fait.
C'est un extrait du podcast Les Attaquantes, la toute nouvelle série produite par Europe 1. On y entend notamment cette interview de Brigitte Henriques, ancienne joueuse, aujourd'hui vice-présidente de la Fédération Française de Football, chargée de la féminisation de ce sport. Et je vous recommande ce podcast sur ces femmes qui sont en train de révolutionner un sport. Car le football féminin rêve aujourd'hui de grandeur. Et il est vrai que la Coupe du Monde, qui s'ouvre en France cette année, va lui apporter sans doute une immense notoriété. Mais au fait, comment le football féminin a-t-il commencé? Quelles ont été ces pionnières qui sont entrées dans l'histoire à force de coups de pied, en tirant vers les buts? Eh bien, cette histoire commence à la fin du 19e siècle et je vous emmène sur les terrains pour la vivre ensemble. Notre histoire commence en pleine époque victorienne au Royaume-Uni. Nous sommes le 23 mars 1895. Cet après-midi-là, des milliers de spectateurs s'amassent aux portes du stade Crouch, un athlétique qu'on pourrait traduire par « souplesse et athlétisme ». Il est situé à 10 km de Londres. La plupart ont acheté leurs billets plusieurs semaines auparavant. Ils ont souhaité venir avec leurs enfants. Le Gotha de Londres occupe les places au premier rang. Il ne fallait pas manquer cette rencontre inédite et finalement à peine croyable. Les 12 000 spectateurs s'apprêtent à assister au premier match de football qui sera joué par des femmes. Jamais une telle rencontre sportive n'avait eu lieu. Le public est excité et redouble d'applaudissements lorsque les joueuses entrent sur le terrain. Le match oppose les Reds du nord de Londres aux Blues du sud de la ville, les Rouges et les Bleus. La première à faire son apparition est celle que tout le monde attend. C'est la star de son équipe. Nettie Honeyball. Il faut dire que Nettie ne laisse personne indifférent. À l'évidence, Honeyball n'est pas son vrai nom et personne ne connaît son âge réel. On suppose qu'elle a environ 25 ans. Déjà à l'époque, son personnage mystérieux fascinait les foules. Sur le terrain, elle porte ce que l'on appelle un knickerbocker, c'est-à-dire une culotte bouffante. Pour être à l'aise dans ses mouvements, elle a revêtu un corsage à larges manches ainsi que des jambières. Étrange costume. Nettie a remonté ses cheveux bruns en queue de cheval. En tant que capitaine de son équipe, elle avance sur le terrain, portant en main un ballon avec un air déterminé. Mais d'autres femmes ne sont pas si à l'aise dans leur courte tenue, car à cette époque, les femmes qui dévoilaient une partie de leur corps étaient très mal vues. C'est pour cette raison que certaines joueuses, un peu timorées, ont recouvert leur culotte d'une courte jupe. Elles ont donc, au-dessus de leur pantalon bouffant, une jupette. Il y a aussi celles, plus coquettes, qui ont décoré leur silhouette en ornant leur chemise de broderie. Au coup de sifflet, le match commence. Le public exulte et applaudit. On entend des cris. Très vite, les Reds prennent le dessus sur leurs adversaires et emportent l'adhésion des spectateurs. Nettie, qui joue un rôle clé dans la défense centrale, est particulièrement efficace. À chacune de ses montées, de ses passes décisives, elle est acclamée. Au bout de 60 minutes, la partie est terminée. Les Reds s'imposent 7 buts à 1 face aux Blues. Le stade est conquis. À la fin de ce match, lorsque les joueuses du Reds s'étreignent pour célébrer leur victoire, le regard de Nettie en dit long. La jeune femme reste silencieuse. Elle ne peut exprimer la fierté qu'elle ressent avec des mots. Si cette rencontre inédite a pu avoir lieu, c'est bien grâce à elle. L'année précédente, en 1894, elle a créé le British Ladies Football Club. Son idée était de réunir des femmes qui ont l'habitude de jouer au foot, mais qui peinent à pratiquer ce sport car il est réservé aux garçons. Elle veut surtout féminiser ce sport. Et pourquoi pas? Depuis une dizaine d'années, par exemple, le tournoi de tennis de Wimbledon est ouvert aux femmes. Pourtant, quand Nettie Honeyball crée ce club de foot féminin, on est encore loin du combat des suffragettes britanniques. Peu importe. La jeune femme veut faire bouger les lignes. Et elle décide de diffuser des petites annonces dans les journaux. Elle appelle tout simplement des jeunes femmes qui aiment le ballon rond à s'inscrire au sein de son nouveau club. Et une trentaine de volontaires répondent favorablement, ainsi qu'une vingtaine de collaboratrices occasionnelles. Dans cette démarche avant-gardiste pour l'époque, Nettie Honeyball est soutenue par une personnalité prestigieuse. C'est Lady Florence Dixie, la fille du marquis de Queensbury. Issue d'une grande famille de la noblesse anglaise dont on dit qu'elle a inventé la boxe, Lady Florence Dixie contraste avec les positions conservatrices de son milieu. Elle est voyageuse, correspondante de guerre, active militante féministe et sportive. Elle accepte la proposition de Nettie de présider le British Ladies Football Club. Et elle va jouer un rôle important dans la prise de notoriété de cette nouvelle institution. Le 6 février 1895, un mois avant le match, Nettie Honeyball explique à la presse ses motivations.
J'ai fondé le club à la fin de l'année dernière, avec la ferme volonté de prouver au monde que les femmes ne sont pas les créatures ornementales et inutiles que les hommes se sont représentées. Je dois avouer que mes convictions se situent toutes du côté de l'émancipation. Et j'attends avec impatience le moment où les dames pourront siéger au Parlement et avoir une voix dans la direction des affaires, en particulier celles qui les concernent le plus.
Le ton est donné. Nettie est déterminée. Il faut dire qu'elle doit faire face à une réelle adversité. Les activités de son club suscitent l'intérêt de la presse, mais qui se moque des femmes amatrices de football? D'un côté, le match du 23 mars a l'adhésion du public, mais de l'autre, des personnalités cherchent à tourner en dérision, à discréditer le club de Nettie. Voici un compte-rendu du premier match de foot féminin écrit par un journaliste de The Sketch, un journal satirique, qui dénonce la piètre qualité du jeu.
Un footballeur demande vitesse, jugement, talent et cran. On n'a rien vu de cela. Aucune règle du jeu n'a été respectée et l'arbitre a vécu l'enfer.
Le match déclenche donc des débats dans la société britannique. Pourquoi les femmes tiennent-elles tant à pratiquer cette activité alors qu'elles pourraient faire de l'équitation ou du patinage artistique, voire du tennis? Visiblement, la société n'est pas prête à laisser les femmes pratiquer le football, qui figure pourtant parmi les sports les plus populaires au monde. Est-ce parce que c'est un sport dérivé de cette soule médiévale qui était un mélange de violence et de combat? Ou d'autres raisons sont-elles à l'œuvre? Malgré les moqueries, la presse est bien obligée de se rendre à l'évidence et de constater l'engouement populaire suscité par le foot féminin. Après ce premier match de 1894, de nombreuses villes du Royaume-Uni comme Darlington, Greenwich, Bristol, Newcastle invitent le Ladies Football Club à jouer pendant des kermesses ou des événements de bienfaisance. Les joueuses se lancent dans une tournée intense, ponctuée par 34 matchs de 60 minutes chacun, le tout en 26 semaines. À cette époque, émerge une autre star du football féminin. Elle s'appelle Daisy Allen. Daisy Allen est une fille de 13 ans qui s'avère une excellente buteuse. C'est la fille de l'avant-centre Nellie Gilbert. Elle se remarque par sa petite taille et son physique enfantin. Ses admirateurs la surnomment Tommy, un petit nom à consonance masculine, comme pour montrer à quel point Daisy serait agile comme un homme. Certains iront même jusqu'à croire que la fillette serait en réalité un petit garçon. Mais cet enthousiasme général va s'essouffler rapidement. D'abord parce qu'Helen Graham Matthews, la gardienne vedette du British Ladies Football Club, va créer sa propre équipe, The Original Lady Footballers. Cette suffragette d'origine écossaise entre en rupture avec le club de Nettie Honeyball. D'ailleurs, la fameuse Nettie va elle-même disparaître de la circulation pour des raisons inconnues avant la fin de la première saison. Malgré des débuts très prometteurs, donc, le football féminin britannique s'éclipse à partir de 1897. Le rêve de Nettie Honeyball est détruit. Il faudra attendre une vingtaine d'années de plus pour que le foot soit de nouveau conjugué au féminin. Cette renaissance a lieu grâce à un événement extraordinaire qui bouleverse toute la société anglaise. La Première Guerre mondiale. Après le départ des hommes au front en 1914, les femmes les remplacent dans toutes les activités économiques, dans les champs, dans les usines, dans les hôpitaux. Elles découvrent alors l'émancipation. Beaucoup sont employées dans des usines d'armement. En 1995, à Preston, dans le nord-ouest de l'Angleterre, des femmes d'une usine de munitions créent un club de foot. L'initiative est même encouragée par l'entreprise. Il s'agit de remonter le moral des femmes dans ces temps difficiles et aussi de corriger par le sport les postures qui leur sont imposées à l'usine. Leur club porte d'ailleurs le nom de l'usine. C'est le Dick Cares Lady Football Club. Leur premier match se déroule le 25 décembre 1917. Il réunit environ 10 000 spectateurs. Le profit de la rencontre est reversé aux soldats britanniques. Le club devient de plus en plus populaire, mais la Fédération anglaise de football ne voit pas sa progression d'un bon œil. L'idée que ce sport est avant tout destiné aux hommes continue de faire l'unanimité. 1921 est le véritable tournant. La Fédération de football anglaise craint que le foot féminin fasse de l'ombre aux équipes masculines pourtant bien plus rentables. Elle va donc prendre une décision radicale. Dans un communiqué, écrit par Frederick Wall, son président, elle annonce une terrible nouvelle.
Nous estimons que notre devoir impérieux est d'exprimer avec force l'opinion que le football ne convient absolument pas aux femmes et qu'il ne doit pas être encouragé dans cette voie. Le conseil de la Football Association prie les clubs qui y sont affiliés de refuser leur terrain pour l'organisation de matchs féminins.
Refuser de prêter les stades. Refuser de mettre à la disposition du football féminin une quelconque infrastructure. Pour le club, c'est un coup dur. Mais les joueuses continueront de participer à des matchs sur des terrains de moindre importance. Cette interdiction du football féminin ne sera levée que 50 ans plus tard, en juillet 1971. Le Dick Cares Ladies Football Club restera dans les annales du foot car il a permis l'éclosion et l'extension du football féminin en Angleterre, mais il aura pris de plein fouet la résistance des milieux masculins. Pendant ce temps, de l'autre côté de la Manche, un autre football se dessine. Nous sommes en France, dans les années 20. Aucune fédération officielle n'existe pour s'occuper du sport au féminin. Pourtant, comme en Angleterre pendant la Grande Guerre, des femmes ont exploré une nouvelle forme de liberté. Certaines se mettent à étudier, d'autres à arpenter les terrains de sport. L'épopée des joueuses britanniques du Dick Cares Ladies Football Club en laisse beaucoup rêveuses, voire envieuses. À cette époque, le Femina Sport va jouer un rôle important. C'est un club féminin, fondé dans le 14e arrondissement de Paris en 1912. Il propose de pratiquer la gymnastique ou l'athlétisme. Il est dirigé par une certaine Alice Milia. Cette dernière n'est pas footballeuse. Elle pratique depuis longtemps l'aviron, mais aussi la nage et le hockey sur glace. Comme beaucoup de sportifs de son époque, elle se sent frustrée de ne pas pouvoir pratiquer tous les sports. La jeune femme a alors une trentaine d'années et elle voit bien le retard de la France par rapport à l'Angleterre dans la féminisation des activités sportives. L'écart se creuse. C'est donc sous son impulsion que le Femina Club va organiser le premier match de football entre femmes, le 30 septembre 1917. Sur le modèle de l'Angleterre, l'intérêt de la France pour le foot féminin va être fulgurant. Plusieurs rencontres sont organisées et une compétition prend place dès les années 20. Le 7 avril 1919, la Fédération française de football est créée. On constitue des équipes de foot féminin en région parisienne, comme en province. Le 29 octobre 1920, au stade Pershing à Paris, les Françaises affrontent les Anglaises du Dick Cares Ladies Football Club devant 12 000 personnes. C'est un record pour l'époque. Les deux équipes se quittent sur un score nul, un partout. Le plan d'Alice Milia fonctionne. Elle clame haut et fort que les femmes ont leur place dans toutes les formes de sport. Elle crée d'ailleurs la Fédération des sociétés féminines sportives de France en janvier 1918. Mais la jeune femme, malgré sa détermination, se heurte aussi au conservatisme politique. En 1919, elle demande au président du comité olympique Pierre de Coubertin que les femmes puissent participer à toutes les épreuves d'athlétisme des Jeux olympiques d'Anvers prévues l'année suivante en 1920. Coubertin refuse catégoriquement. La résistance des milieux du football est encore plus forte. Les critiques sont nombreuses envers les femmes qui pratiquent ce sport. Elles sont pointées du doigt. On parle d'un manque de féminité évident. On dit que pratiquer le foot va leur donner des grosses cuisses, de grosses fesses et peut-être même les blesser. Les footballeuses françaises vont donc devoir conquérir ce qui est considéré comme un terrain strictement masculin. Suzanne Liebard est l'une des porte-paroles des joueuses. Grande championne d'athlétisme, elle a défendu le sport au féminin en France à chaque fois qu'il était menacé. Et surtout, à chaque fois, elle a rencontré un franc succès. Le 14 novembre 1920, dans un article du Petit Journal, elle répond aux critiques émises par la gente masculine.
En hiver, un seul sport nous procure de réelles joies. Pourquoi nous en priverions-nous? Ce n'est pas joli? Qu'importe, les hommes ne pratiquent-ils que des exercices où le muscle soit toujours mis en valeur? Qu'y a-t-il de brutal dans nos ébats pour la lutte du ballon rond? À quoi se bornent nos cruautés? Parfois, une chute bénigne, on se relève, on continue et c'est tout. Je suis convaincue que la femme peut fort bien pratiquer ce jeu, puisqu'il n'est pas dangereux et qu'il développe des qualités fort importantes telles l'esprit d'équipe, la ténacité, la volonté.
Malgré les arguments en faveur du foot féminin, malgré la joie, le plaisir de jouer, les critiques vont devenir de plus en plus acerbes. En 1926, le décès en plein match d'une joueuse, Miss C.V. Richards, accrédite la thèse selon laquelle les femmes en jouant au foot risquent leur santé. Les références au discours médical pour justifier l'inadaptation des corps féminins à la pratique du sport sont fréquentes. Comme en Angleterre, la compétition perd du public. En 1932, la Fédération des sociétés féminines sportives supprime le football des activités qu'elle encadre. C'est un signe fort qui montre que cette pratique est désormais désavouée. C'est la fin du football féminin en France, du moins de manière officielle. Certaines continueront donc à jouer et à pratiquer ce sport, parfois à l'école, parfois en famille. En France, les femmes ne retrouveront les stades que dans les années 1970. Car c'est entre 1969 et 1970 que les fédérations anglaises, françaises et allemandes reconnaissent cette pratique au féminin. Le 15 juillet 1970 a lieu la première édition de la Coupe du monde de football féminin. Le Danemark bat l'Italie en finale 2-0. La FIFA ne reconnaîtra cette compétition qu'en 1991, plus de 20 ans plus tard. Comment expliquer ce changement? Comment expliquer cette mutation? Tout vient en réalité d'un autre pays, pour ne pas dire d'un autre continent. Car dans l'histoire du football féminin, un pays tient une place à part. Ce sont les États-Unis. Si le soccer est populaire chez les hommes américains depuis le début du XXe siècle, la première compétition féminine arrive bien plus tardivement, en 1951. Ce qui change réellement par rapport à l'Europe, c'est que les femmes ont réussi à imposer leur présence dans le monde du football de façon récente et très rapide. Il faut dire que dans la culture américaine, le sport occupe une place très importante, pour les femmes comme pour les hommes. Dès le lycée, mais surtout à l'université, étudiants et étudiantes sont poussés à la pratique, à travers des compétitions organisées sur l'ensemble du territoire. Le football féminin en a fait partie. Ce système permet de dénicher des talents, de les faire progresser dès leur plus jeune âge. Avec davantage de moyens financiers qu'en Europe, le football féminin s'est vite démocratisé au début des années 80. Il connaît une ascension fulgurante. Les États-Unis sont le premier pays à professionnaliser la pratique pour les femmes. La National Women's Soccer League est créée en 2013. Pour sa première saison, la Ligue était composée de 8 équipes. Depuis, le succès des joueuses américaines a tiré véritablement l'ensemble de ce sport. Et dès 2015, la Coupe du monde féminine organisée au Canada a généré pas moins de 40 millions de dollars de ressources publicitaires pour la Fox, la chaîne de télévision très regardée aux États-Unis. C'est la preuve que cette discipline devient de plus en plus attractive et donc rentable. Les États-Unis sont considérés comme l'une des nations de football féminin les plus fortes, comme le prouve son palmarès. Les Américaines sont triples championnes du monde et ont remporté 4 fois le titre olympique. Évidemment, l'équipe de France féminine n'a pas connu exactement la même progression que sa consœur américaine. Pourtant, elle est très soutenue et de plus en plus par les Français qui lui témoignent un intérêt manifeste. Pendant cette Coupe du Monde de 2015, justement, plus de 4 millions de téléspectateurs ont suivi le quart de finale entre la France et l'Allemagne. Comme toujours, les confrontations entre les deux pays avaient atteint une certaine tension et le 26 juin 2015, après un temps de jeu qui n'avait pas réussi à départager les deux équipes avec un partout, il faut en arriver au tir au but. Écoutez ce moment décisif retransmis sur Europe 1.
Claire Lavaugès, et c'est raté! Et l'Allemagne élimine la France! Aïe, 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 l'Allemagne élimine la France, Claire Lavaugès, qui rate son tir au but. L'histoire se répète pour l'équipe de France qui aurait mérité une issue bien différente, mais c'est l'Allemagne qui élimine
l'équipe de France après ce tir au but raté de Claire Lavaugeaise. Que c'est dur pour l'équipe de France, la France qui est éliminée en quart de finale de la Coupe du Monde par l'Allemagne.
En 2015, la déception a été grande, car l'équipe de France avait un beau jeu pendant la compétition et l'on pouvait lui prêter les plus grandes ambitions. Si elle a pu se hisser à ce niveau, c'est grâce à deux événements. D'abord, le fait que l'Olympique Lyonnais a commencé à professionnaliser son équipe féminine à partir de 2004. La section féminine du club est devenue une partie de l'Olympique Lyonnais. En 2009, la Fédération française de football a donc changé le statut des joueuses et créé la possibilité d'avoir un statut de joueur fédéral semi-professionnel. Cette étape a été déterminante, car le club a pu hisser son niveau de jeu et donc remporter en 2011 la Coupe d'Europe des clubs champions. C'est dans cette trajectoire que l'équipe de France féminine a pu accéder aux plus hautes compétitions. Sarah Bouadi, par exemple, l'une des joueuses clés pour la compétition, a été élue meilleure gardienne en 2017 et 2018, mais elle était rentrée à l'Olympique Lyonnais dès 2009. En 2011, au moment où Lyon a remporté la Coupe d'Europe, la France ne comptait que 50 000 licenciés. Elles sont plus de 180 000 à pratiquer ce sport et on peut penser qu'en cas de victoire de l'équipe de France, l'engouement sera encore plus important. Alors qu'il y a un siècle, le football subissait tous les stéréotypes des sociétés masculines et que quelques pionnières étaient parvenues à faire de ce sport un véritable spectacle, on a vu comment tout était tombé dans l'oubli. Mais aujourd'hui, une petite fille peut rêver non seulement de pratiquer le football, mais encore un jour d'être professionnelle. Aujourd'hui, l'équipe de France de football féminin porte les espoirs du pays. Et il faut bien le dire, il y a toujours derrière les équipes nationales une forme de chauvinisme et le soutien, l'engouement qu'on leur porte est vrai aussi bien pour le handball que pour le football. Les grandes chaînes ne s'y trompent pas d'ailleurs puisque TF1 a choisi de retransmettre les matchs de l'équipe de France durant cette Coupe du Monde qui se déroule sur notre territoire. Le succès sera sans doute au rendez-vous car le football n'est pas seulement un sport aujourd'hui. C'est aussi un spectacle qui porte un secteur économique florissant. Et il est normal que les femmes y prennent leur part avec la professionnalisation. Si vous aimez le sport au féminin et que vous avez envie d'en savoir plus sur Netione Ball par exemple et sur les grandes championnes, il y a un livre qui s'appelle justement « Championne » écrit par Lorraine et Clémentine Kaltenbach et c'est paru aux éditions Artaud. Et bien sûr, je vous recommande le fameux podcast « Les Attaquantes » sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pourrez écouter les 7 épisodes de cette enquête unique sur toutes les femmes qui sont en train de changer le foot. Voilà, c'est la fin de cet épisode, mais on ne se quitte pas complètement. Je vous donne rendez-vous dans le groupe Facebook dédié à ce podcast. Rejoignez-moi et on pourra y débattre de l'actualité et de l'histoire, des sujets qui vous intéressent. On postera également les références des ouvrages qui nous servent à préparer chaque épisode. Et puis, si vous aussi, l'actualité vous rappelle un événement historique, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions. Elles pourront inspirer de nouveaux épisodes. Alors je vous dis à très vite.
Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio, présentée par Fabrice Dalméda,
préparée par Adèle Salmon, réalisée par Thomas Caillet.
Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.
À bientôt pour un prochain épisode.